Bon, je vous remercie tous d'être à cette conférence organisée par la Courroie. Cette année, on vous a convié à cette table ronde qu'on a intitulée « Regards croisés, formation métier ». Comment se trouver, comment s'y retrouver? Je crois qu'on est tous dans ces problématiques et on en a eu des illustrations précédemment. Nos soucis, que ce soit les entreprises, que ce soit les universités, c'est d'être capable de se retrouver, de se rencontrer, de manière à pouvoir avoir des embauches de qualité et que nos étudiants trouvent des emplois qui soient à leur capacité. Alors la Courroie, je ne la présente pas, conférence universitaire des responsables de l'orientation et de l'insertion. Pour ceux qui avaient eu la possibilité, en 2013, nous avions déjà organisé une conférence sur ces thématiques insertion professionnelle. Et pendant cette conférence, on avait réfléchi à l'impact que pouvaient représenter Internet et les réseaux sociaux sur les recrutements, sur les pratiques de recrutement. Dans cette lignée, donc cette année, nous vous proposons cette activité. Les débatteurs qui se sont installés à cette table, enfin sur ces chaises, vont nous faire part de leur expérience et de leur point de vue. Pour vous faire réagir, j'ai souhaité, j'en ai distribué une photo à chacun d'entre eux, j'ai souhaité que le propos soit illustré de trois photos et d'un petit symbole. Et je leur demanderai éventuellement à chacun de réagir par rapport à ce qui est mis. Le premier, c'est une passoire. Pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai une idée fixe par rapport à la notion de passoire. Pour moi, la passoire, ça représente vraiment le processus de recrutement de la part d'un RH. Je ne fais absolument pas de recrutement, mais c'est comme ça que je m'imagine un petit peu leur fonction. Il y a 2 ans en arrière, dans le cadre des rues, j'avais parlé de la passoire, mais j'avais parlé plutôt de la partie inférieure, c'est-à-dire du filtre. De l'intérêt pour les entreprises de bien adapter leur passoire de recrutement avec des filtres qui correspondaient à nos étudiants de manière à ce que les meilleurs de nos étudiants passent les barrières de recrutement et qu'on ne soit pas sur des codes et des stéréotypes tels que les filtres pouvaient les prévoir. Cette fois-ci, je suis plutôt sur la partie haute, d'un côté sur le manche et d'un autre côté sur cette enveloppe. Le manche, c'est le RH qui le tient. Et ce qu'il faut, moi ce que je souhaite, c'est que ce manche et cette passoire se dirigent vers nos étudiants. Et quand je dis nos étudiants, c'est tous les étudiants de toutes les universités et qu'ils soient capables d'aller un peu à la pêche de nos étudiants et qu'il en ressorte des étudiants qui sont évidemment brillants. La deuxième vue au milieu, ça illustre également pour moi la difficulté que l'on peut éventuellement avoir. C'est une recherche par empreinte digitale. Ça illustre vraiment pour moi cette notion que l'on peut avoir d'un côté de l'identification de ce que peut être une formation et de l'autre côté de l'identification de ce que peut être un emploi. Et donc, si on arrive à caractériser tant l'emploi d'un côté que la formation de l'autre par des recoupements de caractérisation, de caractéristiques, peut-être qu'on arrivera à faire adéquation entre de bons profils et de bons emplois. La troisième photo, tout le monde l'a reconnue, c'est un symbole, c'est une forme de T, c'était vraiment l'exemple de la standardisation à outrance. Je pense aujourd'hui, sincèrement, qu'on n'est plus à une époque où tout le monde pouvait avoir exactement le même modèle de voiture. Tout le monde, chacun, veut avoir un peu la diversité. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que peut-être qu'aujourd'hui, vouloir simplifier les formations, vouloir simplifier les intitulés, de manière à ce qu'on ait tous les mêmes noms, quel que soit par derrière ce qu'on pourra mettre dans le supplément au diplôme, dans les parcours, etc. Je crois qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu illusoire. Chacun veut avoir son titre de master, chacun veut avoir son titre de formation, et la diversité doit être au rendez-vous. On n'en est plus, je pense, enfin c'est mon point de vue, à standardisation. Et enfin, le petit objet qui est en dessous, le double triangle, c'est vraiment une... On aurait pu penser que c'était pour souligner les 3 photos, pas du tout. C'est peut-être pour moi le symbole le plus important. Ça représente, à mon sens, et je me trompe et je le fais par provocation, vraiment l'évolution dans une vie professionnelle avec ce triangle bleu qui est la marque de ce que l'on peut avoir comme connaissances au départ. Donc au départ, beaucoup de connaissances. Et au fur et à mesure de nos années d'expérience, une augmentation un peu de plus en plus forte de ce que sont nos compétences, de ce qu'est notre expérimentation, avec après, non pas en fin de vie, mais dans le courant de sa vie, l'expérience, l'expertise qui prend le pas sur les connaissances qu'on a pu acquérir. Alors c'est évidemment un schéma extrêmement simpliste, et je le fais de manière à ce que nos auditeurs réagissent. chercher, trouver, obtenir sont trois verbes que j'ai trouvés, que j'ai voulu vous soumettre, mais on ne s'y attardera pas, puisqu'ils peuvent être ambivalents, que ce soit du côté entreprise, que ce soit du côté université. Je cherche à recruter quelqu'un, je cherche un emploi, je trouve, j'obtiens, etc. Pour débattre, et le plan de table a été établi par l'ordre des diapositives qui vont défiler, ils se présenteront au fur et à mesure. Le premier qui va nous instruire de sa grande science, Jean-François Lhuissier, j'en dis pas plus, vous l'avez reconnu, on voit sa tête en haut à gauche, il prend le micro, il cause, et à partir de là, j'essaye de vous promettre de ne plus parler. Mais c'est impossible.
Bonjour, donc Jean-François Lhuissier, j'ai été pendant 5 ans directeur d'un service qui regroupe les fonctions d'orientation, d'insertion, de stage et d'observatoire à l'Université du Havre. Et depuis 2 ans, je suis VPCU de cette université. Et je suis toujours vice-président de la courroie. Donc la courroie, je n'en reparle peut-être pas trop. C'est une association qui se donne pour ambition de regrouper les acteurs et, les pilotes de l'insertion professionnelle et de l'orientation dans les universités, dans les établissements d'enseignement supérieur, et en particulier les universités. Je ne vais pas vous en dire plus. Alors, l'Université du Havre, très très rapidement, petite université au milieu d'un gros bassin d'emploi. Donc, des facilités certaines en termes de stage et d'insertion professionnelle par rapport à d'autres universités. L'université jeune, qui fête ses 30 ans, elle est plus si jeune que ça, mais enfin bon, quand même. Aussi une proportion importante de diplômes dits professionnalisants ou professionnels. Donc là aussi, un certain nombre de facilités peut-être. Et puis évidemment, il y a le travail formidable qu'on a fait qui fait que nous avons des résultats effectivement assez flatteur en termes d'insertion professionnelle. Mais je ne veux pas vous en parler plus que ça, parce que très plutôt m'amène à m'interroger peut-être un petit peu sur ce qu'est un diplôme professionnel. Je pense que c'est une vraie question. Dans les universités, on a des réponses variées à cette définition. Un diplôme professionnel, est-ce que c'est un diplôme spécialisé ? Souvent, on répond comme ça. Maintenant, il suffit de regarder, par exemple, nos collègues des écoles d'ingénieurs qui vont nous dire, mais pas du tout, nous faisons des diplômes professionnels qui sont peu spécialisés, bien au contraire. Donc là, je pense qu'il y a un travail, de réflexion. Ce qui est sûr, c'est qu'un diplôme professionnel, c'est un diplôme qui a une certaine proximité avec l'après-étude, avec le monde de l'entreprise d'une façon générale ou des organisations. Mais cette proximité, elle peut s'exprimer de plein de façons et pas uniquement à travers un stage ou, une prévisualisation d'un métier. Et ça m'amène à la question à laquelle je réponds pas forcément exactement de la même façon que Jean-Claude, de savoir finalement qu'est-ce qu'on attend de la description d'un diplôme, qu'est-ce qu'on attend d'une nomenclature. Pour moi, qu'on a besoin de deux échelles de description. C'est-à-dire qu'on sait très bien que un gros tiers des étudiants diplômés des universités travaillent en dehors de leur secteur directement de compétences décrits finement par leurs études. Pour autant, ils ont des carrières qui sont souvent tout à fait enviables. Ils ont de la réussite, ils sont plutôt heureux. C'est ce qui sort de la plupart des enquêtes d'insertion, de toutes les enquêtes d'insertion qu'on a. Et donc, se dire une nomenclature trop précise, est-ce que ça n'aurait pas tendance à enfermer un étudiant en recherche d'emploi dans un schéma peut-être un petit peu trop restrictif de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait offrir à une entreprise. C'est une entreprise, une organisation d'une façon plus générale. J'ai vraiment une question et je pense que pour ça, cette idée de nomenclature un petit peu plus contrainte n'est peut-être pas une mauvaise chose en ce sens que elle nous apporte deux échelles de description qui figurent, je précise, sur le diplôme. Donc une mention de licence, de master, de licence professionnelle maintenant, qui va peut-être correspondre plus à un secteur, à quelque chose qui va suivre L'ancien étudiant, tout au long de sa vie, hein, le secteur dans lequel il travaille évolue quand même moins vite que son métier au quotidien. Et puis, le parcours, qui reste, lui, extrêmement précis, et qui va correspondre au premier emploi visé. Et en laissant un petit peu d'ouverture, finalement, il va peut-être permettre et aux étudiants et aux employeurs d'avoir une représentation un petit peu moins restrictive des savoir-faire des étudiants diplômés. Donc moi, je suis assez partisan, finalement, de ne pas avoir des mentions trop précises, trop compliquées. Et finalement, quelquefois, on peut se demander si, hors de 3-4 spécialistes, tout le monde comprend bien ce qu'il y a dans la mention. Alors, pourquoi est-ce que ça pose problème ? Ben justement, parce qu'on a, je pense, un problème de représentation. Représentation des étudiants, qui sont... et c'est là qu'on a besoin, à travers des échanges multiples, d'augmenter de la qualité, la quantité des liens entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire, parce que les représentations des métiers sont liées peut-être aussi à notre école très, très diplômante, très, très carrée. Et donc on a du mal à imaginer qu'après avoir fait des études sur un domaine pointu, eh bien, on soit autonome et efficient sur un domaine connexe, plus ou moins connexe. Donc je pense que ça, c'est une vraie question, et l'enjeu de ces représentations, il est là, et il marche aussi dans l'autre sens. Hein. Je pense qu'il y a des gens là qui représentent aussi des employeurs, ou des employeurs potentiels, des recruteurs, etc., qui peuvent aussi se laisser enfermer par les spécialisations de ces diplômes, et finalement ne pas voir qu'un docteur, qu'un titulaire de master a des compétences qui dépassent largement sa spécialisation. Bon, ça, je tenais à le souligner. Et puis, après, sur les liens formation-emploi, je voulais aussi dire quelques mots, alors là, une expérience peut-être plus havraise, sur la façon dont le lien se fait et dont le tissu socio-économique intervient, c'est peut-être pas le mot, mais influe aussi sur une offre de formation. Hein, c'est une expérience qui n'est peut-être pas transversale partout, mais qui est liée effectivement à l'histoire de l'Université du Havre. Et en fait, on se rend compte qu'il y a deux modalités. Il y a une modalité directe, que vous connaissez tous, ce sont les licences professionnelles. C'est-à-dire que les licences professionnelles, effectivement, très souvent, c'est le tissu économique qui est porteur d'une demande et les universités qui la mettent en œuvre, et ça fonctionne plutôt bien. Et puis, l'université, c'est quand même une petite université, c'est quand même une grosse boutique. Et donc, avec beaucoup d'inertie. Donc ça fonctionne sur les licences professionnelles, mais ça ne fonctionne pas partout. Et sur les offres de master, enfin de licence éventuellement, mais surtout de master, la façon dont ça fonctionne, c'est peut-être beaucoup plus indirect, c'est-à-dire que c'est peut-être via les collectivités, les régions en particulier, qui ont beaucoup d'attention, qu'il y a une espèce de prégnance pour que les universités saisissent d'une stratégie qui résonne avec le territoire. Et dans un deuxième temps, effectivement, cette stratégie va décliner des spécialités du territoire au Havre. Par exemple, typiquement, le secteur portuaire va impliquer, des formations très ouvertes sur l'international, des formations, beaucoup d'attention autour de la logistique, par exemple. Ce ne sont que des exemples. Je voulais aussi un petit peu détailler la façon dont le tissu économique, enfin détailler, c'est peut-être pas le mot, mais dont le tissu économique avait quand même un petit peu l'influence sur les universités. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je crois qu'on est plusieurs.
Merci Jean-François. Bah écoute, tu as parlé effectivement de ces gens qui, de l'autre côté de notre barrière des diplômes, étaient amenés à embaucher ou tout au moins à recruter. Donc on va passer la parole à M. Sandrock qui va très rapidement se présenter, très rapidement pour après être un peu plus long pour pouvoir tout nous expliquer de ce qu'il pense du recrutement.
Oui, bonjour à tous. Mon nom est Jean-Philippe Sandrock. Je suis responsable des relations avec les universités, les grandes écoles, donc AEDF. Je ne vous ferai pas l'injure de présenter EDF, peut-être un chiffre ou deux. Nous sommes 160 000 dans le monde, 110 000 en France. Recruter, oui, nous le faisons puisque nous avons un important programme de renouvellement de compétences. Nous avons recruté depuis 2009 30 000 personnes. Ces recrutements sont nécessaires parce que nous nous sommes confrontés notamment au départ des générations de salariés d'EDF qui sont entrés dans l'entreprise, enfin les baby-boomers qui sont entrés dans les années 70 et 80 et qui partent à la retraite. Donc, sachez que depuis quelques années, nous recrutons 6000 personnes chaque année, dont environ 1700 diplômés de l'enseignement supérieur long. Nous sommes créateurs d'emplois nets. L'année dernière, nous avons recruté 2000 personnes de plus que de départ. Nous recrutons dans tous les métiers, essentiellement techniques. Sur les 6000 personnes, nous recrutons environ 1700 personnes avec un profil donc bac plus 5 technique pour des métiers de la production, recherche, développement, production donc dans le nucléaire essentiellement, hydraulique, la production thermique, les énergies renouvelables. Nous accueillons beaucoup de personnes également dans l'ingénierie, dans ces différentes branches, mais également des métiers du commercial, des métiers support, RH, finance, logistique, achat. Vous voyez, donc un grand éventail de métiers, un grand éventail de profils. Parmi les diplômés de l'enseignement supérieur long, nous accueillons 33% de filles aussi. Donc c'est un chiffre dont nous sommes très fiers, qui se situe, je crois, un petit peu au-dessus de la moyenne.
Alors, oui. Quand on avait échangé, M. Sandrock, pour moi, EDF, vu de ma petite université, c'était essentiellement chaque année une campagne de recrutement qui s'appelait Energy Day. Donc, en échangeant, vous m'avez dit, oui, Energy Day, c'est une chose, c'est peut-être le plus emblématique, mais on a beaucoup d'autres occasions de faire des événements pour le recrutement. Et on n'a pas été beaucoup plus loin. J'aimerais bien qu'on en dise, mais juste en deux, trois mots. Un, Energy Day, bon, tout le monde connaît, tout le monde peut y avoir accès, il suffit de se déplacer à Paris. Mais vous avez parlé de forums, voire de salons, en particulier dans des universités. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous faites pour choisir ces universités. Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est des cartes qui sont déjà battues? Est-ce que vous changez chaque année? Est-ce qu'il n'y a pas par derrière des stéréotypes qui font que EDF pense que telle université, c'est bien pour le recrutement, mais qu'à côté, ils oublient peut-être d'autres universités?
Oui. Alors, Energy Day, je le rappelle en deux mots, c'est 2200 étudiants accueillis à la Grande Halle de la Villette, avec 500 personnes d'EDF mobilisées. C'est un moment pour les étudiants de rencontrer des personnes d'EDF, qui vont donc témoigner, qui vont parler de leur métier, de leur quotidien, de ce qu'ils ont fait avant, de ce qu'ils sont susceptibles de faire après. Alors, ce n'est qu'une étape du dispositif, si j'ose dire. Le cœur, c'est quand même notre site de recrutement, EDF Recrute, avec son environnement digital, avec des offres qui sont également publiées dans Facebook, sur Twitter, voilà, donc environnement digital avec des outils, des vecteurs électroniques, si j'ose dire. Mais nous, à côté de cela, je l'ai dit, il y a le contact physique. Rien ne vaut une rencontre pour un étudiant de quelqu'un, d'une femme ou d'un homme qui travaille à EDF. Et pour ce faire, donc, nous sommes présents à 35 forums en université grande école, mais également à l'étranger. Nous sommes également à Milan, à Londres. Nous allons à Francfort en mai et à Madrid. Parce que nous recrutons environ une centaine de jeunes bac plus 5 non français, si j'ose dire. Donc 35 forums, nous sommes présents à des tables rondes, des conférences, environ à 50 événements dans les grandes écoles, les universités, des salons, des forums, avec chaque fois une présence, si possible, d'anciens diplômés, et si possible aussi de jeunes, parce que... les vieux comme nous, c'est bien, mais les jeunes parlent bien aussi aux jeunes. Donc on essaye de mixer un peu cela.
Un peu de respect.
Voilà. Et que faisons-nous encore? Nous sommes présents aussi, ça participe du rayonnement de l'entreprise dans les universités et les grandes écoles. Nous avons beaucoup d'intervenants d'EDF qui sont enseignants, qui sont chargés de cours. Et là aussi, c'est une occasion, puisque chaque fois, l'étudiant peut dialoguer, peut poser des questions à l'enseignement qui dispense son savoir.
Est-ce que, par exemple, vous allez à l'Université du Havre ?
Je l'ignore. Alors là, vous me posez une colle. Je sais que nous... Alors, nous avons une remarquable centrale charbon qui est sur le port, hein, qu'on voit de loin avec ses cheminées rouges et blanches.
Non, mais si, par exemple, Jean-François, vous faisait la demande, ça se passe comment ? Seulement peut être entendu ? Il y a des critères ?
Non, il n'y a pas de critères. C'est un contact qui se fait directement. J'ai un besoin, moi, université grande école. Est-ce que vous pouvez répondre à mon besoin ? Et nous sommes en général assez ouverts. C'est bien vu chez nous d'intervenir en établissement d'enseignement. Pas que dans le supérieur, d'ailleurs. Nous avons des ingénieurs d'EDF, 16 ingénieurs qui sont détachés dans les académies, qui sont des ingénieurs pour l'école et qui interviennent dans les écoles élémentaires, collèges et lycées pour parler de l'électricité, des métiers de l'industrie, etc. Donc, on est un peu présent partout. Mais voilà, pour répondre à votre question, monsieur, vous venez voir mes collègues au Havre, je pense que vous serez bien accueilli.
Donc, tout le monde a tenu monsieur Sandrock.
Oui.
Bon. J'avais juste une autre question. On avait aussi un peu échangé sur votre site d'EF Recrute. Combien de candidatures, combien de retenues, et puis process très rapide, puisqu'il ne faut pas dévoiler vos sources.
600 000 candidatures reçues l'année dernière, donc beaucoup, beaucoup de monde qui vient nous voir, dont un tiers de démarches volontaires, des gens qui sont vraiment, qui veulent, ou qui cherchent du travail ou un stage. Ou un contrat en alternance et qui viennent donc nous voir. Donc 6000 recrutements, nous accueillons chaque année aussi 3000 alternants et environ 5000 stagiaires de tous niveaux. Mais c'est vraiment EDF Recrute qui est notre vecteur privilégié de contact pour rejoindre EDF.
D'accord. Madame de Blonde.
Bonjour.
À vous de jouer.
Alors, j'avais préparé une petite image humoristique, en fait, pour présenter un peu le métier que je représente dans ce parterre de personnes, voilà, l'Indien dans la savane. Je suis plutôt du côté des métiers, donc j'interviens dans un cabinet de recrutement qui fait de la chasse de tête, qui s'appelle Alphée. Donc, je pratique le métier de chasse de tête depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, pour clarifier les choses, ça veut dire que j'appartiens à ce qu'on appelle les intermédiaires de l'emploi, du domaine privé, dans la chaîne, employons des mots savants, il y a des gens savants en face de nous, la chaîne de l'appariement qui consiste finalement à rapprocher un candidat potentiel de son emploi. Qu'est-ce que ça veut dire quand on travaille dans un cabinet de recrutement ? Ça veut dire qu'on est avant tout au service d'une entreprise qui va nous payer, qui va financer la stratégie de recherche. On recherche des cadres confirmés, des seniors, mais aussi des juniors, contrairement à ce qu'on peut penser. En général, on cherche du potentiel. On peut être sur une très forte volumétrie de campagne. Et donc, du coup, on a une très forte exigence de résultats. C'est-à-dire, on doit, comme on vient s'immiscer dans la chaîne, entre le candidat et l'entreprise, on est censé sécuriser l'appariement. Donc ça met un peu de pression, ça coûte un peu d'argent et ça prend un peu plus de temps. Ça, c'est le métier. Pour ajouter un élément, c'est vrai que quand vous m'avez invité à la conférence, je me suis dit, je suis un intermédiaire, je suis pas complètement à 100% du côté du métier, je suis pas du tout du côté de l'université, mais je suis au milieu du guet. Et je considère que mon rôle, c'est quelque part un rôle de passeur. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le comportement de mes clients, les attitudes des candidats que je peux rencontrer en entretien, confrontés effectivement l'un et l'autre à devoir se comprendre, s'apprécier, s'analyser pour faire quelque chose qui va fonctionner. Ce qui fait pour moi le succès d'un recrutement, finalement, c'est l'association de quatre éléments qui vont jouer positivement ou négativement chez le candidat, c'est, mais on y reviendra un peu plus tard aussi, sa personnalité, les expériences qu'il a quand même accumulées au cours des stages qu'il a pu faire, depuis qu'il est petit éventuellement, pourquoi pas, son diplôme, bien sûr, Voilà, ça c'est trois éléments qui sont quand même extrêmement importants et qui vont être modulés et qui vont jouer. Après, sur le plan personnel, ce que je tiens à vous dire, c'est que je suis moi-même une universitaire, que j'ai empilé différents cursus totalement différents et fréquenté une université de province et puis de parisienne, à des périodes différentes, qui avaient des moyens différents, dont je connais très bien, je suis très fortement sensibilisée sur la problématique de l'intégration des universitaires dans l'emploi. J'ai dû, à titre personnel, arrivant en cabinet de chasse de tête dans les années 90, me battre pour rester. Je n'étais absolument pas dans les castings de diplômes de l'époque, qui étaient très, 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 et je pense qu'on est plusieurs à le savoir, très, très orientés grande école. Il fallait que je prouve ce que mon cerveau allait être capable de faire dans cet univers de grandes écoles. Et moi, l'universitaire littéraire, on m'a mis au fichier des candidats parce qu'on s'est dit que c'était là, finalement, où je pouvais trouver ma place. Donc, depuis, c'est vrai que quand je vois des universitaires dans mon bureau, je travaille avec certaines universités pour justement former, préparer la rencontre avec l'entreprise. Il y a un moment, le cerveau doit... Il faut se mettre dans une posture, il faut se mettre dans un discours et c'est quand même nécessaire pour que les personnes se rapprochent. Donc tout à l'heure, j'ai bien aimé ce que j'ai entendu entre l'introduction, vos propos, j'ai entendu ouverture, enfermement, est-ce que les intitulés des masters enferment ? Il faut trouver le juste équilibre, je pense, entre quelque chose qui doit être précis, parce que nous, recruteurs, si c'est flou, on comprend pas forcément. Bon, j'ai des convictions, j'ai des idées par rapport à ça, on y reviendra sans doute dans le débat global et général, donc je ne vais pas sur ce sujet-là tout de suite. Mais il faut qu'il y ait une sorte de précision quand même sur les intitulés des cursus pour qu'on comprenne. La passoire, c'est bien, elle permet de filtrer. Avant la passoire, il faut le filet de pêche, c'est-à-dire qu'il faut aller pêcher les... Et pour aller les pêcher, il faut savoir où on met le filet de pêche. Hein, je suis un peu métaphorique, pardonnez-moi, mais on jette le filet...
C'est le filet dérivant.
C'est le filet dérivant qu'on va mettre dans tel et tel cursus, dans telle et telle filière, dans telle et telle université, parce qu'on cherche tel et tel métier. Voilà, donc il faut de la précision quand même dans les intitulés, pour que les choses soient plus claires pour nous. Et il faut effectivement un peu de respiration pour ne pas tomber dans quelque chose qui soit trop clivant, trop stéréotypant, trop enfermant. Après, le débat que j'ai, et j'aimerais pouvoir en discuter avec les personnes des universités, c'est que malheureusement, je trouve que les jeunes universitaires, quand ils débarquent dans un bureau de cabinet, bon, ils ne sont pas forcément préparés à l'exercice, ils sont très dépourvus. Quand on leur demande quelle a été concrètement la réalité de leurs études, moi je prends du temps en général quand je rencontre un candidat. Donc je fais pas ça de façon superficielle. Donc je prends du temps quand je ne connais pas le master. Je suis curieuse, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de savoir, puis j'ai besoin d'en tirer quelque chose. Qu'on n'a pas grand chose, hein, ils sont jeunes. Et finalement, alors qu'ils sont les premiers à pouvoir être des ambassadeurs de leur master, malheureusement, ils sont un peu sans réponse. Ça flotte, ils ne sont pas du tout préparés, pas du tout entraînés. Et je m'interroge s'il ne faudrait pas aujourd'hui, sans copier le modèle des écoles, les grandes écoles le font pour leurs étudiants, ils ont intégré dans leur cursus, ils les surentraînent, ils les apprennent à se présenter, à parler de leurs études. Parfois d'ailleurs, on ne leur pose même pas de questions d'études, puisque l'école est tellement connue qu'elle fait référence. Les universitaires, ils doivent toujours se battre, toujours expliquer. Donc voilà, donc ils vont être plus facilement confrontés à des questions de ce type-là. Et malheureusement, pour moi, ils ne sont pas assez préparés à l'exercice. Et c'est dommage. Voilà, je ne vais pas plus loin et je vais passer la parole au suivant.
En tant que passeur, vous allez passer le micro à notre amie Sabine Lopez, qui va évidemment rebondir sur... Comment réussir à avoir des étudiants fiers de leur cursus et comment...
Fiers de leur parcours.
Fiers de leur
parcours. Je vais effectivement poursuivre la, la dernière idée que vous avez mise en avant. Je me présente juste très brièvement. Donc, je suis en charge du service d'orientation et d'insertion professionnelle de l'Université de Cergy-Pontoise depuis 4 ans. J'ai démarré mon parcours dans le privé en tant qu'enseignante en chimie. Et au bout de plusieurs années, étant confrontée quotidiennement à des étudiants qui étaient là très souvent, je dirais, en tous les cas ceux qui venaient me rencontrer par défaut, sans savoir réellement pourquoi ils étaient là et ce qu'ils pourraient faire de leurs études, même étant dans une grande école. Alors effectivement, ça date un peu, donc c'est vrai qu'on était moins outillés à l'époque. Mais voilà, donc j'ai mené moi-même ma réflexion par rapport à mon parcours et j'ai décidé de me réorienter dans le domaine de l'orientation professionnelle et de l'insertion des étudiants et des jeunes diplômés. Donc je suis partie ensuite travailler en cabinet d'orientation et cabinet de bilan de compétences pour me confronter à de multiples publics. Et je suis arrivée ensuite à l'université par choix. Et je suis effectivement ravie parce que il y a un challenge. Il y a un challenge qui consiste en fait à travailler sur de nombreux critères en parallèle pour aller favoriser la réussite de nos jeunes diplômés. Donc c'est passionnant parce que nous sommes face à des étudiants qui la plupart du temps ont des têtes bien faites, mais qui effectivement ne sont pas suffisamment préparés à ces fameux entretiens. Donc je dirais que la première chose à faire, c'est vraiment d'accompagner ces jeunes, à tous les niveaux, que ce soit en licence, en master, en doctorat également. Alors les préparer, ça ne veut pas dire leur apprendre la technique de faire un CV, de développer leur réseau, de savoir mener un entretien, bien que tout cela, effectivement, il faut savoir le faire. Mais savoir faire un CV, eh bien, c'est la mise en application d'un projet professionnel qui est mûrement réfléchi, qui est construit, et dans lequel je dirais que la partie analyse réflexive par rapport à qui l'on est, par rapport à ce que l'on souhaite faire, par rapport justement à ses intérêts, ses motivations professionnelles, exercice que peu d'étudiants savent faire. Et il est effectivement nécessaire que des professionnels les accompagnent dans cet exercice-là. Ensuite, il y a un deuxième volet qui effectivement consiste à formaliser ce que je sais, ce que je sais faire a priori, ce que je suis a priori capable de faire. Et là aussi, je dirais que globalement, sans tomber dans un stéréotype, parce que les généralités ne sont jamais bonnes, mais il y a un certain manque de confiance aussi, parfois, justement, que l'on peut rencontrer au niveau des étudiants. Ils ont du mal, finalement, à se projeter dans ce qu'ils sont capables de faire réellement. Donc, ça incite aussi, je dirais, en amont, à développer les stages, à les rendre même obligatoires dans toutes les maquettes. Ça, c'est extrêmement important. À développer l'apprentissage aussi, parce que la pédagogie inductive, elle est extrêmement apprenante. Aller compléter ses compétences par ses connaissances, c'est un exercice qui, justement, permet à l'étudiant de se rassurer sur ce qu'il est capable de faire. Et puis, donc, le dernier volet, en fait, qui intervient dans la formation des projets professionnels de l'étudiant, ça concerne, effectivement, toute l'analyse de l'environnement socio-économique qu'ils méconnaissent pour la plupart. Et tout cela, eh bien, pour que le jeune apprenne à construire son projet. Alors, c'est pas forcément en licence avoir une idée précise d'un métier, d'un secteur, mais c'est être conscient du fil conducteur de son parcours, de là où j'ai envie d'aller et pourquoi j'ai envie d'aller là, et de se laisser le temps de maturer son projet au fil des années et en prenant justement au passage, je dirais, une certaine diversité des stages, des choix de spécialisation en fonction de ce qu'il a envie de découvrir, etc., etc. Voilà, donc à l'université de Cergy-Pontoise, ça fait maintenant donc, enfin, depuis que je suis là, et puis ça avait commencé aussi auparavant, nous essayons de disciplinariser cet axe. Donc disciplinariser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire le rendre scolaire, parce que c'est effectivement tout sauf scolaire. Ça veut dire qu'il faut absolument l'intégrer dans les maquettes pour que nos jeunes soient bien préparés. Et intégrer dans les maquettes, ça veut aussi dire pouvoir les assortir de CTS, parce que sans cela, je peux vous assurer, et là c'est l'expérience qui parle, que malheureusement, les étudiants ne s'investissent pas suffisamment et le regrettent après coup. Voilà, donc on se bat pour ça et c'est en train, au fur et à mesure, justement, je dirais, on est en train de convaincre, je pense, hein, l'ensemble des différents acteurs Mais voilà, ça demande effectivement beaucoup d'énergie et il faut y croire. Et je suis ravie quand j'entends ce genre de discours parce qu'effectivement, tout ce travail-là va amener les jeunes diplômés à pouvoir affronter un entretien de recrutement dans n'importe quel type de situation. Donc c'est ça qui est vraiment extrêmement important, c'est cette approche globale. Alors c'est vrai que pour nous en université, ce qui n'est pas simple, aussi par rapport aux écoles, il faut le souligner, c'est le volume d'étudiants qu'on a accompagnés. Donc nous sommes obligés finalement d'aller réfléchir à des processus qui nous permettent à la fois de traiter la masse et l'individualisation, parce que c'est un travail qui se fait en fonction de chacun. Voilà, donc en termes d'ingénierie pédagogique, on a de quoi faire pour se satisfaire. Je dirais que le deuxième élément en fait que je voulais mettre en avant au-delà du projet professionnel, c'est d'essayer justement, mon collègue en a parlé, de rapprocher le monde de l'enseignement avec le monde du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, le langage commun, c'est quand même la notion de compétence. On ne l'a pas abordé, donc je vais essayer de faire court. Ne t'inquiète pas, Jean-Claude, puisque ça fait partie des sujets qui m'animent. Qui nous anime, bien sûr. Je dirais juste que cette notion de compétence, elle doit... Alors, elle implique une pluralité de définitions, tout le monde le sait, mais elle doit être adaptée au monde de la formation. Et j'ai aussi, je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, qui m'a beaucoup plu, parce que la compétence dans le monde de la formation, c'est en fait un ensemble de ressources, hein, savoir, savoir-faire, savoir-être, à développer. Donc il y a quand même deux logiques, sans que la notion soit différente, mais il y a deux logiques assez différenciées de la notion de compétence entre le monde de l'enseignement et le monde du travail. Dans le monde de l'enseignement, on est effectivement davantage sur une logique de développement, de potentiel, alors que dans le monde du travail, on est davantage dans une logique de performance, de marché, où la priorité, ça va être le présent. Donc nous, notre rôle, c'est effectivement d'amener les jeunes à pouvoir être capables, en s'adaptant au métier qu'ils feront plus tard, d'être capables de mettre en œuvre les ressources qu'ils ont pu acquérir et développer au sein de l'université. Donc effectivement, alors là, on a finalisé ce projet l'année dernière. On a mené un projet de transcription des masters en compétences, qu'on n'a pas appelé d'ailleurs UCP compétences, mais UCP savoir et compétences, parce qu'ils ne font pas tomber non plus dans la logique extrême qui voudrait dire qu'à l'université, on ne développe que des compétences. Non, je pense qu'on ne va pas se mentir. Les jeunes apprennent avant tout des connaissances, et c'est d'ailleurs ces connaissances, je dirais, ou ces compétences dites académiques qu'il me semble aussi important de faire valoir au travers des processus de recrutement. Donc voilà, le troisième axe consiste aussi à travailler avec les entreprises et les intermédiaires, donc les cabinets, pour essayer d'adapter les processus de recrutement aux spécificités de nos profils universitaires qui ont effectivement beaucoup de connaissances. On lit quand même dans un certain nombre d'enquêtes qu'aujourd'hui le marché de l'emploi manque de profils qui sont orientés à la fois vers la connaissance et vers l'innovation. Donc ça veut dire qu'il y a quand même... Alors évidemment, ça dépend des métiers, des secteurs, etc. On va encore une fois pas tomber dans la généralité. Mais ça veut dire que là aussi, nos profils universitaires ont vraiment leur carte à jouer. Et il est important justement qu'ils sachent le communiquer, donc toutes les soft skills qu'on peut justement travailler avec eux au sein de ces modules d'accompagnement. Il est important que les jeunes diplômés s'approprient. J'entendais un DRH dire il y a peu de temps que parmi les compétences, enfin les soft skills recherchées, il y avait notamment la débrouillardise, l'autonomie, la capacité à s'adapter. Je pense qu'à l'université, on n'est quand même pas mauvais là-dedans. Voilà, à contrario, je dirais que voilà, ce qui était aussi beaucoup demandé, c'est la capacité à communiquer, la capacité à convaincre. Donc effectivement, ce type de compétence, lorsqu'un jeune n'est pas suffisamment préparé, qu'il n'a pas suffisamment construit son projet, ça risque de le mettre un petit peu plus en difficulté. Et puis, un DRH nous disait il y a quelques jours que lui, ce qu'il recrutait le plus, c'était ce qu'il appelle, lui, l'énergie positive. Eh bien, cette fameuse énergie positive, elle est effectivement intimement liée à la bonne place que le jeune diplômé universitaire va occuper au sein de l'entreprise et des organisations d'une manière générale. Donc forcément, elle est intimement liée à un projet professionnel qui soit suffisamment étayé. Je m'arrête là.
Ok. On est débordant d'énergie positive.
Donc Nathalie Drachtemam, donc je suis vice-présidente de l'insertion professionnelle à l'UPMC, donc l'université Pierre et Marie Curie. Alors vraiment, en deux mots, l'université Pierre et Marie Curie, c'est une université de sciences et médecine. Et dans cette université, nous avons 32 000 étudiants. Voilà, c'est juste pour donner un chiffre rapide. Donc la question que m'avait posée Jean-Claude, donc, dialoguer avec les entreprises, est-ce facile? Alors je ne vais pas répondre oui ou non, enfin, je ne vais mettre personne à dos.
On me souille avec quelque chose.
Que... Oui, ça je le dirais après. Parce qu'il nous fait des blagues. Donc moi ce que j'ai, alors je l'ai pris un peu, j'ai essayé de le prendre sous cette, enfin l'angle de cette question, et je voudrais essayer de développer comment on peut amorcer et faciliter le dialogue avec l'entreprise. Et on va voir en fait que ça reprend tous les outils ou les éléments dont on a parlé, aussi bien au niveau des intitulés, etc. Je pense qu'il y a quelque chose d'important quand on veut, avant même de dialoguer ensemble, c'est de se rendre compte qu'on est des organisations qui fonctionnent très différemment et qui ont un point commun, c'est leur complexité. Et je pense qu'on dit souvent, les universités, c'est compliqué. Je pense qu'on est, tous des organisations assez compliquées et que pour amorcer le dialogue, et il faut absolument accepter cette complexité et puis surtout ne pas s'arrêter à des idées reçues, à des a priori, etc. Donc ça, je pense que c'est le préambule à une amorce de dialogue. Encore un préambule, ou en tout cas quelque chose qui est important avant de dialoguer, c'est qu'il faut pouvoir aussi trouver et identifier les bons interlocuteurs, ce qui n'est pas chose facile. C'est déjà trouver les bons établissements. Quand je dis bons établissements, alors c'est ta petite note en dessous, c'est pas ça. C'est un private joke. Les bons établissements, c'est les établissements qui peuvent répondre aux besoins de l'entreprise. Et donc, il y a des difficultés qui peuvent être territoriales ou de lisibilité. Typiquement, là, tu l'as cité sur ton transparent. C'est vrai que l'Île-de-France, avec ses 17 universités, c'est pas toujours facile. Et donc, il faut mettre en place des outils pour faciliter la lisibilité. Et donc, j'ai pas dit en plus, donc je suis membre du CEDIPRE. Et le CEDIPRE, c'est un regroupement de tous les responsables insertion professionnelle et relations entreprises de l'Île-de-France, donc des 17 universités d'Île-de-France. Et ça se veut être potentiellement un point d'entrée pour les universités, enfin, pour les entreprises, et ensuite, bon, après chaque université, ensuite de dialoguer avec les entreprises qui correspondent aux demandes. Donc ça, c'est une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est identifier les bonnes personnes dans les entreprises et les universités, et ça, j'y reviendrai. Ensuite, et on l'a dit un petit peu, il faut essayer de se comprendre mutuellement, ce qui n'est pas toujours simple, et identifier et traduire les attentes, et on en a parlé tout à l'heure, les besoins des acteurs. Et ça, je pense que c'est important dans cette première phase de dialogue. Et puis aussi, il faut se faire rencontrer les bons binômes. Je pense que ce qui est important, et on le voit dans les relations qu'on a, ce qui marche bien, c'est souvent quelqu'un d'une DRH, et puis un opérationnel ou des opérationnels, côté entreprise, et puis côté université, bien sûr des gens qui sont en charge des relations entreprises, mais aussi des enseignants-chercheurs. Et ça, je pense que c'est important de mettre en face, en regard, ces différentes personnes. Et puis, bien sûr, on l'a dit un petit peu aussi, c'est définir une stratégie de coopération avec des priorités communes. Ce qui est important, c'est que ça crée de la valeur pour tous. Et ça, je pense qu'il faut toujours rester sur cette ligne-là. Alors, différents éléments qui vont faciliter le dialogue. Et ça va reprendre des choses qui ont été déjà vues. Notamment, il faut avoir les bons outils pour dialoguer. Et on a parlé tout à l'heure des guides de compétences, ou en tout cas l'expression des formations en compétences. Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait à l'université Pierre et Marie Curie. On a décliné toutes nos mentions et toutes nos spécialités de master en compétences. Mais on l'a fait pour les entreprises. C'est un guide qui s'appelle Vivier de talent. Et on ne l'a pas fait pour les étudiants. Ils peuvent s'en saisir, mais effectivement, ça n'aurait pas forcément été la même démarche comme vous l'avez dit. Donc, il faut avoir des outils. Il faut aussi avoir des outils côté entreprise. Et c'est vrai qu'on va peut-être parler tout à l'heure des référentiels métiers, etc., qui peuvent être aussi intéressants pour faciliter le dialogue. On a parlé de la réduction des intitulés. Je pense qu'après, il y a plusieurs niveaux de lecture. Nous, à l'UPMC, on a donc, je ne sais pas combien, 5 ou 6 000 étudiants en master, 2 000 diplômés par an. On a uniquement 10 mentions de master, parce qu'on avait déjà fait ce choix, en fait, de premier niveau de lecture. C'est-à-dire que, voilà, un étudiant, on cherche quelqu'un qui a fait de l'informatique, globalement, il y a un master informatique, et derrière, c'est décliné en spécialité. Donc, je pense que cette réduction d'intitulé va nous permettre ces deux niveaux de lecture qui simplifient quand même le dialogue avec les entreprises. Voilà, je cherche un informaticien, OK. Et maintenant, on discute sur les spécialités. Donc, ça aussi, je pense que c'est des outils qui vont nous aider. Donc, bon, c'est quelque chose qui va faciliter. Qu'est-ce qui va aussi faciliter le dialogue? C'est bon, on a dit en cernant les formations, mais aussi en cernant le profil. Le profil, alors on l'a un peu exprimé, de nos étudiants, les savoir-être notamment. C'est ça, on peut le faire avec une mise en relation tout au long du cursus et pas seulement dans la phase de recrutement, entre les entreprises et les étudiants, et c'est aussi important pour les étudiants, pour comprendre l'entreprise, les métiers, etc. Donc ça aussi, ça peut faciliter le dialogue, parce que du coup, on se comprend mieux à travers les étudiants. Une autre façon de faciliter la mise en relation, c'est de mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bons binômes, mais notamment ensemble à discuter les enseignants-chercheurs et les opérationnels. Ça, je pense que c'est très important à un moment dans la relation de demander aux enseignants-chercheurs de s'y investir et de travailler sur cette relation. Alors, ça peut se faire via des conseils de perfectionnement, ça peut se faire dans des projets pédagogiques, l'intervention d'UE. On peut imaginer plein d'éléments qui peuvent faciliter ce dialogue. Et puis, on l'a dit aussi, un dialogue qui est facilité quand on dit on vient sur un forum autre avec des anciens. Effectivement, un dialogue qui est facilité par la connaissance des anciens, des diplômés, le parcours des diplômés. Alors, le parcours des diplômés dans l'entreprise, c'est intéressant de savoir un diplômé de l'UPMC, qu'est-ce qu'il fait chez EDF, par exemple, où il est, dans quelle mission, comment il a évolué, etc. Je pense que ça aide aussi pour mieux se comprendre, mieux se connaître. Voilà un petit peu les choses. Ah bon, après on peut aller plus loin. Je pense que l'idée c'est d'aller plus loin dans ce dialogue. Une fois qu'on a réalisé un certain nombre d'expérimentations, qu'on a vu qu'il y avait vraiment un intérêt mutuel, on peut construire ensemble là et s'engager. On peut construire des dispositifs. Ça, je pense que c'est important aussi. C'est quelque chose que l'on peut faire ensemble. Il faut qu'on puisse partager l'expertise. Et notamment, on a parlé tout à l'heure des métiers. Je pense que c'est intéressant aussi de travailler sur l'anticipation des évolutions professionnelles ensemble. Mais pour ça, il faut déjà avoir fait tout le chemin, c'est-à-dire se connaître bien, pouvoir dialoguer. Et puis, il faut pouvoir s'engager sur la durée. Et ce qui est important, s'engager sur la durée... Alors, signer des conventions ou pas, ce n'est pas un problème, mais il faut qu'après, le dialogue qui est bien installé percole dans l'université et dans l'entreprise. Ce qui est important, c'est vraiment structurant en interne pour l'entreprise et pour l'université. Et puis, c'est vraiment un levier pour continuer. Je pense qu'une fois que le dialogue est amorcé, que les gens se connaissent bien, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin au sein de l'université, mais on peut aller aussi plus loin. Pour en finir rapidement, on peut aller plus loin sur d'autres thématiques que la formation et l'insertion dont on parle, mais par exemple sur la recherche, et je pense que c'est aussi un levier pour ce type de partenariat.
Nathalie, merci. Donc la question ne te gênait pas en fin de compte?
Non, c'est le petit truc en dessous de la question que tu avais mis.
Parce qu'en réalité, en dessous, j'avais mis... je ne le dirai pas, sinon elle va me donner des coups de canne anglaise. Bien. Tu as parlé effectivement de cette importance qu'on a, cette réflexion, nous, sur les diplômes, sur les formations, de la manière dont on peut les décrire, de manière à faciliter la lecture. C'est vrai que les entreprises, les fédérations, les organisations ont également une réflexion, eux, sur leur métier, sur les descriptions. Madame Deblon, tout à l'heure, on n'en a pas parlé, mais elle fait partie d'un comité qui réfléchit sur des nomenclatures de métiers, me semble-t-il. On va maintenant passer la parole à Monsieur Humblot, qui, en fin de compte, va se présenter et va brillamment nous expliquer pourquoi il est là et pourquoi il a collaboré avec une équipe de recherche. Voilà.
Rapidement, donc je suis président de Syntec Études et Conseils, qui est donc une organisation professionnelle qui rassemble 6 métiers des études et du conseil. Donc on rassemble les conseils en management, les instituts d'études et de sondage, les conseils en recrutement, dont fait partie... consoeur Anne-Marie Deblonde, les conseils en évolution professionnelle, les conseils en relations publiques et les managers de transition. Donc le point commun de tous nos métiers, c'est que ce sont des métiers donc qui sont au service de l'économie, au service des entreprises, des organisations, des administrations, et nous apportons tous des vitamines à l'économie. Nous sommes des leviers de croissance et nous sommes au service du développement et de la transformation de nos clients. Et nous recrutons beaucoup de jeunes diplômés. Nous recrutons entre 6 et 10 000 jeunes diplômés par an. Donc de tous horizons, de toute spécialité, de toute formation. Et donc j'arrive petit à petit à notre sujet. Et l'enjeu pour nous, c'est de trouver les meilleurs par rapport aux différentes spécialités qu'on recherche. Donc historiquement, beaucoup de nos entreprises recrutaient dans les grandes écoles, il faut bien le dire. Depuis quelques années, à la fois par nécessité et par réflexion progressive des recruteurs, nous sommes tournés vers l'université. La nécessité, c'est que quand il y a 50% d'une promotion d'une grande école que je citerai pas qui rentre dans les métiers d'études et du conseil, c'est difficile de faire plus. Le recruteur du cabinet de conseil en management ou d'institut de sondage qui constate qu'il n'arrive pas à trouver des diplômés sortant de cette dite école, il est bien obligé de se tourner vers autre chose. Et la deuxième raison, c'est que aujourd'hui nos clients nous demandent de plus en plus d'être innovant, créatif, apporter des idées nouvelles, des expertises nouvelles, et il faut bien les trouver ailleurs. L'université est un univers extrêmement large dans lequel on trouve énormément de formations. C'est notre enjeu. On était avec ce problème. Moi, en plus, à titre personnel, je suis de métier conseiller en recrutement. Et depuis 40 ans que je fais ce métier, j'ai toujours essayé d'être au service de la diversité. J'ai toujours essayé de promouvoir des candidats qui apportaient un plus par rapport à ce que me disaient mes clients, et quelquefois j'essayais de les faire sortir de leurs stéréotypes et de faire en sorte de présenter des gens différents mais qui correspondaient un petit peu mieux selon moi à ce que pensait initialement mon client. Voilà notre situation. Et nous avons fait, on représente quand même, j'ai oublié de le dire, 120 000 salariés, ce qui explique les 6 à 10 000 recrutements par an. Et on recrute que des jeunes diplômés quasiment, on compte aussi des cadres expérimentés, mais tous nos salariés à 90%, 95% sont des diplômés. On a fait une rencontre. On a fait une rencontre avec le laboratoire IDEF de l'Université Paris 13, qui nous a donné. On a construit un partenariat avec eux. On a financé un projet qui va vous être présenté juste après. L'idée, c'est de travailler sur le rapprochement linguistique entre nos métiers et les formations donc qui existent à l'université. On s'est rendu compte que nous avions nos jargons, l'université a les siens, il est extrêmement difficile de comprendre d'avoir des passerelles entre ce que disent les programmes des universités et ce que nous disons, nous, dans nos fiches métiers, dans nos descriptifs de postes, etc. On a lancé ce programme de recherche, le but étant de créer un moteur de recherche, mais qui n'est pas du tout un moteur basé sur des mots-clés type Google, parce que ça, c'est simpliste, d'aller beaucoup plus loin et d'aller, grâce à la notion de clé sémantique, de créer des passerelles entre un vocabulaire d'une langue qui est la langue des consultants et, le vocabulaire de la langue des universités. Le but étant de pouvoir donner un outil à nos recruteurs, de nos entreprises, pour leur permettre, face à un poste à pourvoir, de pouvoir identifier, donc grâce à ce moteur qui va être mis en service très rapidement, donc toutes les formations qui existent et qui peuvent correspondre à ce aux compétences recherchées. Et donc on en attend beaucoup parce que finalement, si ça marche, c'est la solution à tout ce qui a été dit depuis une heure. Hein. Donc c'est très ambitieux, hein, mais c'est un outil qui va être expérimenté rapidement et qui normalement devrait permettre à nos métiers d'ouvrir largement le champ et de découvrir donc des formations qu'ils n'y pensaient pas du tout. Hein. Et donc si ça marche, ça pourrait être étendu bien sûr dans d'autres univers. Voilà. Donc je laisse la parole à Fabrice. Qui va vous montrer concrètement ce que c'est. Hein, et c'est important que vous puissiez le visualiser parce que c'est un outil, donc il faut un peu de visuel. Voilà.
Oui, donc bonjour, je me présente. Je m'appelle Fabrice Issac et on va dire que j'interviens ici dans le cadre de la coopération qu'il y a entre le laboratoire auquel j'appartiens, IDEF et Syntec. Donc je suis moi aussi universitaire, mais je représente aussi l'entreprise IDEF, parce que pour répondre à ce besoin, on a créé, donc entre quatre collègues universitaires, on a créé une entreprise qui donc s'appelle IDEF. On est issu d'un laboratoire de linguistique et donc on a essayé de résoudre ce problème par ce biais. On se place dans ces intermédiaires dont on a parlé. C'est très agréable pour moi de parler à la fin parce que justement, vous avez énoncé tous les problèmes et à chaque fois, il y avait quelque chose qui résonnait dans ma tête en me disant bah, peut-être que c'est des choses à croire que ça a été fait exprès. Donc nous, voilà, on a considéré le problème de ce point de vue-là. Alors, il faut dire qu'aussi, j'insiste, on est universitaire et donc on est parfaitement conscient de la problématique des formations. C'est-à-dire que on est nous-mêmes, non pas responsables, mais on intervient fortement dans des formations. Donc quand je dis qu'on est responsable de formation, oui, parce que bah, les formations de master, on les rédige, on les porte, on fait en sorte que ça fonctionne. Donc on sait vraiment ce que c'est. Et dans la collaboration avec Syntec, ils nous ont montré eux leur point de vue sur les métiers. Et donc notre objectif c'était de mettre les choses en relation. Et donc le biais qu'on a pris, enfin le principe, c'était de faire non pas des recherches par mots clés comme ça a été dit, mais de faire la traduction. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que on traduit, et ça aussi, ça a été, c'est des mots qui sont venus dans la conférence. Donc, on traduit les mots des métiers en mots de formation et inversement. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va typiquement là, ce qu'on a fait pour le moteur de recherche là qu'on a mis en place, c'est que on est parti des métiers que tels que les voyaient Syntec, et on a été voir dans les formations quelles étaient dans l'ensemble des formations quelles étaient les formations qui avaient une grande proximité avec ces métiers-là. Et donc on fait ce rapprochement et concrètement on va le moteur propose. J'espère que je vais pouvoir vous le montrer. Le moteur propose des métiers et en cliquant sur un métier donné, eh bien, on nous propose, on appelait ça GPS, donc on nous propose une carte de France où on voit, par les systèmes de petites épingles que vous connaissez, on voit les lieux de formation et l'intitulé des masters qui pourrait prétendre à former à ces métiers-là. Donc, ce qu'on veut, nous, on veut étendre un petit peu, c'est vraiment cette idée-là, c'est de dire, ben, les gens qui font du recrutement, ils ont une vision, réduite de toutes les formations qui existent. Ils ne peuvent pas savoir tout ce qui se fait, parce que d'abord, c'est dynamique, c'est un processus dynamique. Et donc, on veut étendre le champ des possibles pour les formations. Et donc, Ça n'a pas l'air de fonctionner, mais j'ai le joker de vous dire que vous pouvez venir sur le stand Syntec qui est en B02. En B2, et donc là, on sera dans des situations optimales pour qu'on puisse vous faire une vraie démonstration. On a un site complet, et vous allez voir, il y a des aspects qui sont encore assez techniques. On a une base de métiers encore réduite, puisqu'on s'est focalisé sur un certain nombre de métiers. C'est parce qu'il faut les étudier un par un. Comprenez bien que cette traduction, parce que je tiens à ce terme de traduction, ça nécessite une étude de la langue. Quelle est la langue utilisée? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes qui, genre, nous, c'est notre pain quotidien en tant que chercheurs en linguistique. C'est essayer de voir un peu le sens qu'on met derrière les mots. Je pourrais vous dire plein de choses sur des aspects linguistiques, mais ça ne vous intéresse pas. Mais comprenez que pour effectuer ce lien, il y a plusieurs outils, et on se place vraiment dans ce cadre-là. On est un outil en plus qui va permettre de faire justement ce lien et cette traduction. On n'a aucune velléité de dire là, c'est les choses qui fonctionnent, là, c'est les choses qui ne marchent pas. C'est au contraire, on veut étendre le champ des possibles. Pour proposer pour l'instant, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens des métiers vers les formations, de dire, ben voilà, vous avez tel métier, peut-être que vous n'aviez pas pensé à ça. Et pourtant, à Nice, eh bien, il y a un master qui certainement pourrait vous intéresser, vous devriez aller voir. Donc voilà. Désolé pour le. Donc oui, le site où vous pouvez consulter, c'est consultable en ligne, donc c'est www.i-def, tout en minuscule, .fr. Et donc là, vous arrivez sur notre site. Le plus intéressant, enfin, de ce que j'ai présenté là, c'est le GPS, c'est ce qu'on appelait, nous, le GPS. Encore une fois, si vous êtes un master et que vous essayez notre GPS et puis vous dites « oui, mais moi, j'y suis pas alors que je devrais y être », eh bien, c'est possible qu'on n'ait pas votre formation dans notre base. On n'a pas de prétention là, maintenant, tout de suite, à être exhaustif, mais on le sait, et donc on a prévu, il y a un lien qui est participé, voilà, il y a un lien où ben, on demande justement aux formations, ben, vous n'y êtes pas, très bien, on vous rajoute dans la base, et donc voilà, le lien pourra être créé, et on pourra de nouveau vous proposer sur l'ensemble de la France. Voilà, je vous remercie. Désolé pour...
L'outil qui vient de ne pas être présenté est un outil assez dangereux, à mon sens, parce que il peut, quelque part mettre en évidence des formations similaires, des formations identiques. Et donc là, moi, c'est le commentaire que je vous avais fait à une époque, ça peut donner l'envie à des autorités de tutelle, de se dire, mais pourquoi il y a un master A ici, un master B là, qui débouche exactement sur la même cartographie de métier, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des économies d'échelle et en supprimer un? L'autre élément que j'avais vu quand j'ai découvert le projet avec Syntec et la discussion, c'était de se dire que, en fin de compte, M. Isaac n'a pas pu nous le montrer, il y a quand même un classement des formations par degré de pertinence par rapport aux métiers ou aux champs de métiers qui sont proposés. Et là, il peut y avoir un élément qui est assez intéressant, c'est de, pour le responsable de master, le responsable de formation, de se dire, mais quels sont les éléments complémentaires que je pourrais amener pour coller à tel ou tel champ professionnel? Et là, en discutant avec M. Imbeau, il m'avait fait une remarque, il m'a dit, mais de toute façon, il ne m'avait pas dit chacun chez soi. Mais il m'avait dit, vous les universitaires, vous savez ce que vous devez faire comme formation, nous on sait ce qu'on a comme métier, on est fait pour se rencontrer, mais jamais, enfin je défends peut-être vos propos, mais je les avais entendus comme ça, mais jamais on essaiera de vous imposer nos vues sur ce que vous devez faire. Enfin, c'est à peu près ce que vous m'aviez dit à une époque, mais qu'effectivement on doit par contre arriver à se retrouver de manière à ce que l'étudiant, le bon étudiant, vous ne l'ignoriez pas, que vous le trouviez où qu'il soit, et ça sans stéréotype, sans a priori.
C'est une question de marché, hein. Il faut que les marchés se rencontrent, hein. Et donc, vous parliez de danger, c'est pas un danger si les étudiants, ils se cassent dans les boîtes de conseil, hein. Je veux dire, donc, et si effectivement, telle formation correspond à besoin du marché, elle a vocation à rester. Hein. Et en fait, aujourd'hui, on se constate qu'il y a un déséquilibre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement, d'un côté, des formations qui sont hyper reconnues et où chaque étudiant, il a, en sortant, il a 5 propositions, 10 propositions. Et il y en a d'autres où les offres d'emploi sont beaucoup plus faibles parce que pas connu, parce que confidentiel, alors qu'il y a peut-être 20, je sais pas, master, 20 étudiants au fin fond de Nice, vous disiez, c'est pas évident, quoi. Donc, et grâce à cet outil, ça peut donner de la visibilité, justement, à des formations avec une faible quantité d'étudiants, mais une très forte qualité, et donc une très, très bonne adéquation par rapport à certains de nos métiers.
Je sens qu'Anne-Marie veut réagir.
Oui. Alors, effectivement, l'outil, je suis partagée. Enfin, je trouve ça fascinant parce que moi, je l'ai vu en démonstration, donc c'est assez bluffant. Je trouve que c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant. Et finalement, dans votre petit croquis, c'est la voiture au bout de la ligne. C'est un outil, quelque part, de modélisation qui va nous aider à. Par contre, ce que je ne voudrais pas qu'on oublie en fin de conférence, c'est tout ce qu'on s'est dit. On a parlé d'esprit et d'énergie positive, on a parlé de rencontres physiques, on a parlé de... En fait, il existe énormément de choses. Les universités se rapprochent des entreprises, les étudiants vont au contact des entreprises par les stages. Moi, j'ai croisé là deux enquêtes récentes, celle de l'APEC qui nous parlait des prévisions d'emploi jeunes cadres pour l'année 2014. Il va y avoir 33 000 à 38 000 recrutements de jeunes cadres, c'est-à-dire moins d'un an d'expérience professionnelle. Ça veut dire qu'ils vont rentrer quand même dans le statut cadre. Hein. Il y a des jeunes diplômés qui vont sortir des universités, qui ne seront pas cadres, mais qui vont quand même rentrer. Ça ne m'a pas semblé énorme. Et juste dessous, après, il y avait une autre enquête qui avait été faite à la fin de l'année dernière, où 500 chefs d'entreprise étaient interrogés sur ce qu'ils pensaient du recrutement des moins de 25 ans. Ils évoquaient plutôt des peurs, c'est-à-dire que pour eux, c'est des recrutements à haut taux de risque, plus que par rapport à des seniors, puisqu'on n'a pas beaucoup de matière, en fait, pour s'appuyer. Et après, ce qui était extrêmement intéressant, c'était les 3 critères qui jouaient pour eux dans leur choix. Et ça rejoint ce que vous avez dit. Arrive à plus de 50% la personnalité. Les éléments de ce qu'ils sont, leur joie de vivre, leur esprit positif, la façon dont ils savent parler d'eux-mêmes, parler de leur parcours, parler du choix de leurs études, va jouer à plus de 53%. Ensuite, arrivera les expériences concrètes qu'ils ont réalisées à 30%, et au bout, à 12%, c'est le diplôme qui joue. Ce qui veut dire quoi ? Enfin, j'espère de penser que c'est vrai, que finalement, les universitaires, aujourd'hui, ils ont autant de chances que les diplômés de grande école. Et c'est ça qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui. Et je pense que moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a énormément de choses qui se font depuis 15 ans. Tant au niveau, il y a des réformes au niveau de l'enseignement. Dans les entreprises, on crée au sein des équipes RH des experts de ce qu'on appelait il y a 20 ans les campus managers, des experts de la relation avec les universités. Nous, intermédiaires de l'emploi, on est là pour préparer les uns à rencontrer les autres, rassurer les autres. Il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets, mais autant EDFGF a des moyens colossaux pour recruter ces jeunes diplômés, autant les PME sont particulièrement démunis. Pas de recruteurs, ils n'ont pas suivi la réforme des masters, ils ont peur, ils ne veulent pas prendre des risques. Donc là, nous, on a un rôle d'accompagnement qui est énorme. Donc c'est tout ce qui se fait aujourd'hui depuis X années à tout niveau qu'il faut qu'on retienne. L'outil est visionnaire, fascinant, passionnant. Ça sera un élément, mais je pense qu'il faut qu'on démultiplie des rencontres physiques, des événements. Les organisations syndicales font leur rôle, les universités travaillent, voilà. Et je pense que c'est en travaillant ensemble, en étant unis avec le même objectif et en remettant l'étudiant en préoccupation. J'ai bien aimé ce que vous avez dit, parce que finalement, ils réalisent trop tard. Une fois qu'ils sont dehors, hors université, ils se disent « Mince, j'aurais dû aller au forum emploi. Mince, j'aurais dû aller au salon. Mais j'ai préféré aller m'amuser avec mes copains. » C'est un peu ça, hein, je caricature. Mais voilà, eux, je pense que c'est eux aujourd'hui qui ne prennent pas suffisamment conscience qu'aujourd'hui, il y a, je crois, un étudiant sur quatre qui est au chômage quand il quitte l'université et quand il quitte l'école. Et le marché de l'emploi aujourd'hui, pour les jeunes diplômés, il est vraiment très, très, très difficile. Voilà, c'était le mot de la conclusion, c'est tout.
Mais ce que j'aurais tendance à dire, c'est pas tellement la Ford, mais c'est plutôt la passoire. C'est-à-dire que cet outil-là va permettre d'emmener la passoire au bon endroit pour que l'étudiant puisse se présenter et puis après ose rentrer. C'est-à-dire qu'il faut que... Nous, on sait qu'on a de bons étudiants. Le problème, c'est qu'il faut que les entreprises sachent où aller... On avait tout à l'heure, j'ai dit filet dérivant, sachent où aller pêcher. Et donc, il faut que... Nous, notre challenge régulier, et puis on a l'impression que forum après forum, table ronde après table ronde, on dit toujours la même chose. Cassons les stéréotypes, ouvrons-nous, etc. Mais on constate que c'est quand même toujours extrêmement compliqué. Parce que, parce qu'il y a beaucoup trop d'offres, parce qu'il faut aller... Et donc là, je crois que ça peut être éventuellement un outil qui nous aide.
Troisième élément, c'est que nous, effectivement, on sait qu'on a des étudiants qui sont capables d'y arriver. Il faut aussi qu'eux en soient conscients, en soient persuadés. Dans les secrets de la réussite... Le premier secret de la réussite, c'est la volonté d'y arriver. Donc la volonté d'y arriver, elle est effectivement liée à un objectif déjà, un objectif clair, pour pouvoir déployer l'énergie suffisante pour mettre en œuvre cet objectif-là. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler tous ensemble, effectivement. N'oublions pas également les enseignants. Il y a aussi certains enseignants qu'il faut convaincre. Donc je parle là essentiellement peut-être pour les doctorats, mais je peux intégrer quand même certains masters, que la carrière académique, ce n'est plus la seule perspective professionnelle de nos docteurs. Ce sont également des professionnels, des vecteurs de l'innovation dans les entreprises. Donc il faut absolument que les directeurs de thèse et que l'ensemble du corps enseignant soient convaincus de ça, qu'ils puissent justement encourager les étudiants à participer à toutes les formations, à tous les dispositifs que nous mettons en place. Nous ne leur demandons pas de faire, mais de nous laisser faire. Et donc, je dirais que pour cela également, il faut aussi que nos services puissent être dotés de personnel, justement, expert dans ce domaine-là. Voilà, donc on a encore beaucoup à faire, mais je pense qu'on est sur le bon chemin.
Monsieur Sandrock.
Justement, mais qui complète tout ce qui a été dit avant, dites à vos étudiants de faire des stages. Qu'ils profitent de toute occasion d'aller sur des forums, d'aller rencontrer des entreprises, des organismes professionnels, et surtout qu'ils aillent nous voir, hein, qu'ils viennent faire des stages. Moi, tout à l'heure, j'ai vu un étudiant qui a fait un doctorat. Il était à Strasbourg, après il a fait à Paris. 31 ans, il me dit « je cherche du travail chez vous ». Bon, je regarde le CV. Voilà, mais vous n'avez jamais mis les pieds dans une entreprise. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ce qu'on va vous dire souvent. Et il m'a dit, oui, monsieur, vous avez raison. On n'arrête pas de me le dire. Voilà, donc peut-être que il a raté une fois dans son parcours ou deux l'occasion de venir en entreprise. Il m'a néanmoins parlé d'une expérience rapide. Et j'ai dit, voilà, capitaliser là-dessus, essayer d'expliquer, valoriser ça. Mais faites des stages.
Enfin, si je peux me permettre, sans esprit de polémique, je crois qu'on est tous, nous, universitaires, conscients de la nécessité des stages. Le problème, c'est que l'offre est quand même un peu réduite. Et en particulier, on est en face d'une problématique, me semble-t-il, c'est que le stage, je veux dire le stage normal éventuellement, est un peu en désuétude parce que l'apprentissage est en train de monter en puissance quelque part. Et donc, apprentissage, stage, c'est un peu les mêmes viviers et ça nous pose quelque part des problèmes.
Les capacités d'accueil des entreprises, elles ne sont pas illimitées. Hein.
Oui, absolument.
Et donc, moi, je connais, je ne veux pas la citer, mais une très grande société de conseil en management. Hein, ils recrutent 300 stagiaires par an. Hein, et donc, on leur reproche de pas recruter d'apprentis. Ils ne peuvent pas. Hein. Ils mettent un stagiaire dans chaque groupe de projet. Ils ne peuvent pas mettre un apprenti non plus. Et en plus, les apprentis, ils n'en trouvent pas. Hein, parce qu'avec les formations qu'ils cherchent, il n'y a pas assez d'apprentis. Donc, eux, ils ont fait le choix des stagiaires. Au détriment des apprentis, et il y en a d'autres qui vont être de par leur nécessité de obligés de faire le choix inverse. Donc c'est il faut pas opposer l'un à l'autre, il faut développer les deux.
Hein. Et
mais effectivement, il y a un vrai problème de de ce côté-là. Et aujourd'hui, on est dans une situation où c'est compliqué, parce qu'en plus, on est velléitaire sur l'apprentissage en voulant le développer d'un côté et en lui permettant pas de se développer de l'autre, hein, parce qu'il y a beaucoup de résistance là-dessus, alors que c'est formidable, l'apprentissage. On est tous d'accord dans l'entreprise pour dire que c'est formidable. Hein. Et voilà. Et donc... on a l'impression aujourd'hui qu'il y a beaucoup de verrous à faire lever pour arriver à concilier les deux et essayer de faire en sorte de donner un petit peu de marge de manœuvre aux entreprises pour qu'ils puissent essayer d'en recruter le plus possible.
Mais je n'opposais pas du tout les deux, mais je disais juste que en réalité, l'enveloppe était globale et qu'à un moment donné, l'entreprise partait dans une direction ou dans l'autre et ne pouvait malheureusement pas jouer sur tous les tableaux. Nathalie, oui, de l'UPMC, qui a des facilités à rencontrer les entreprises.
Voilà. Moi, je voulais rebondir sur deux choses. Sur les stages, je pense qu'effectivement, on a un vrai problème. On l'a calculé sur le bassin d'emploi d'Île-de-France. Si on faisait faire un stage au moins une fois en licence et une fois en master, c'est n'importe quoi. Enfin, les chiffres, c'est n'importe quoi. Donc, il faut effectivement... Moi, je pense qu'il faudrait essayer de construire ensemble des alternatives aux stages. Qu'est-ce qui peut faire... Qu'est-ce qui peut remplacer un stage? On pense à des études de cas où on prend vraiment un cas réel et puis on travaille avec des mais qu'on le reconnaisse plus comme une expérience. Et je pense qu'on a des choses à faire, à trouver des alternatives aux stages. Je pense qu'il y a aussi, il y a le verrou de la durée des stages. Quand il faut absolument faire des stages de 3 ou 6 mois, ça empêche aussi de multiplier les possibilités pour les jeunes de rencontrer l'entreprise. Je pense que là, on a vraiment un travail. Là, on peut dialoguer, c'est facile. Il faudrait qu'on dialogue sur ce sujet. Je vais revenir aussi sur votre intervention. Je pense que ce qui est important à l'université, c'est absolument d'engager les enseignants-chercheurs sur la mission d'orientation-insertion et pas seulement de dire que le service fait. Il faut qu'ils fassent aussi. Je rappelle que la loi de 2007, dans les missions des enseignants-chercheurs, il y a orientation et insertion professionnelle. Donc je pense que ce qui est important aussi, on a un vrai rôle à jouer là, et les services sans doute qui sont ici, c'est à impliquer nos enseignants-chercheurs dans cette mission, et pas seulement à sous-traiter un service style BAIP ou autre, mais à s'impliquer dans cette mission. Voilà, je pense que c'est les deux sujets que je voulais...
Non, j'ajoute juste, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il faut effectivement les mobiliser. Après, il y a certains dispositifs qui peuvent faire peur, en fait, à des enseignants et qui sont effectivement réservés, puisque c'est un métier, hein, d'accompagner. Donc, il y a des dispositifs qui peuvent un peu, effectivement, les rebuter. Et donc, ce n'est pas forcément ce qu'on leur demande de faire, mais on leur demande, effectivement, de mobiliser. On essaye de se mobiliser, on essaye de co-construire. On a justement conçu il y a très peu de temps avec une association qui s'appelle Association donc à tout jeune université, qui regroupe 3 universités et 4 grandes entreprises. On a en fait co-construit un module d'enseignement à l'intérieur de la licence Lettres modernes, qui consiste en fait à co-construire entre un enseignant et un manager d'une grande entreprise ça s'appelle un atelier d'écriture créative, pour aller alimenter la recherche en marketing amont de grandes marques de luxe. Donc ce sont des modules d'enseignement typiquement qui impliquent vraiment les deux acteurs, et ils vont voir justement de part et d'autre que finalement la frontière n'est pas si importante et qu'ils peuvent vraiment travailler ensemble et que ils ont aussi presque un langage commun. Donc c'est effectivement sur ce type d'action qu'on essaye nous de mobiliser l'ensemble des enseignants-chercheurs.
Jean-François ?
Je vais y arriver.
Oui. Et je proposerai éventuellement que tu fasses ton intervention et la conclusion, et puis après, on répondra aux nombreuses questions qui n'apparaîtront pas vu l'heure.
Oui, alors, je pense...
Mais il y aura évidemment des questions si les gens le souhaitent.
Il me semble quand même qu'il y a des choses qui se regroupent énormément dans ce qu'on dit, entre... Dire voilà, rien ne vaut le contact physique, l'entretien physique, la relation, voilà, ce qu'on veut, le face à face, pour un recrutement par exemple, ça veut bien dire qu'on s'intéresse à une personne et pas à un groupe. Quand on parle de stage, d'expérience, etc., c'est pareil, c'est une façon aussi pour un étudiant qui suit un programme, alors. En théorie, parce que dans la réalité, les parcours sont plus divers, mais en théorie, un programme, je dirais, partagé par beaucoup, et qui a peur, finalement, de se distinguer de la masse. Hein. C'est-à-dire que souvent, l'étudiant, il va dire « Ah oui, mais ça, j'ai fait ça, mais ça, faut pas que je le mette, parce que c'est pas comme les autres. » Ben oui, mais en même temps, vous serez 50 identiques à vous présenter, et qu'est-ce qui va faire qu'on va vous choisir ? Bon, des choses comme ça. Quand on parle de compétences aussi, il me semble qu'il y a... Alors, On est pour l'instant encore dans le déclaratif. Voilà, on décline, on apprend à décliner nos diplômes en compétences. Mais pour autant, quelle est la réalité de tout ça? Donc ça, il y a une responsabilité qu'a l'étudiant, le futur travailleur, de mettre en valeur tout ça. Il a cette responsabilité. Nous, on a la responsabilité, un, de le lui faire comprendre, de lui en faire prendre conscience. Et je vous rappelle quand même qu'à l'université, les enseignants-chercheurs sont des gens qui ont trouvé leur emploi sur table, pratiquement. Donc ce ne sont pas forcément les plus familiers avec la démarche. Et c'est pour ça qu'on a du mal, qu'on dit qu'il faut les convaincre, il faut les emmener, il faut les accompagner. C'est une vraie difficulté qu'on a. On progresse, la loi, d'une part, le travail de terrain qu'on fait dans les services, on progresse. Mais c'est difficile, c'est vraiment difficile. Et je pense qu'il y a des leviers pour ça. Des leviers simples, on décline des diplômes en compétences, et bien juste après, posons-nous la question de savoir si on évalue des connaissances ou des compétences ou les deux. Je pense qu'on sortira du déclaratif le jour où un certain nombre d'évaluations, pas forcément toutes évidemment, parle compétence, parle transversalité, parle plusieurs UE, etc., en même temps. Les projets encadrés, tutorés sont des formes d'évaluation de ce type. Et donc, je pense qu'on boucle assez bien sur l'ensemble. Et je dirais, à partir du moment où on est capable, où un étudiant, un jeune est capable de décliner d'une façon réelle, et pas seulement en lisant ce que ses enseignants ont écrit sur les compétences acquises, mais vraiment, il en est convaincu, il a appris. Il a aussi réfléchi sur qui je suis, où je veux aller, ce qui a été dit au début. Eh bien, ce jour-là, il aurait peut-être un petit peu moins besoin d'avoir des stages dans son CV, parce qu'on sait bien que c'est illusoire de se dire on fera des stages qualifiants, on offrira des stages qualifiants à tous les étudiants de France. On n'est pas capable de le faire, quoi. On n'y arrive pas. Bon, voilà, c'est comme ça. Et je vous ai dit, moi, je suis d'une université où c'est plutôt facile, parce que le bassin d'emploi est grand par rapport à l'université. Mais le jour où on sera capable d'armer les étudiants en leur disant, voilà, j'ai compris ce que c'était qu'une compétence, j'ai compris quelles étaient mes compétences, je sais moi où je veux aller, je sais qui je suis, eh bien ce jour-là, je pense que le dialogue sera plus facile et on aura largement progressé. Et je pense que c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, tous autant qu'on est, comme on peut. On est en route dans cette direction et puis... on avance, mais on n'a pas fini le boulot.
Question, intervention ?
La formation doctorale est une formation par, et c'est ça qui a changé par rapport au machin d'avant que j'étais A d'abord, donc par la recherche et à l'innovation. OK ? Par la recherche. Donc c'est une formation par la recherche. Donc le but essentiel n'est pas de former des enseignants-chercheurs et tout. Et il n'y en a jamais eu plus de 20% si on regarde les stats du ministère depuis une plombe. Moi, je suis INSERM, je ne suis pas enseignant-chercheur. C'est-à-dire, je suis chercheur de métier. Et la deuxième phrase est la formation doctorale est un parcours professionnalisant. C'est-à-dire que l'expérience de doctorat est une expérience professionnelle. Et quand on demande des stages par-ci, par-là, eh ben, je peux vous dire que gérer une thèse, c'est une excellente expérience professionnelle. Et on apprend beaucoup de choses, de la com, gérer l'échec, enfin, tout un tas de choses que vous connaissez très bien, donc je ne vais pas faire le... Mais juste le rappel de cet article qui, pour moi, est fondateur. Parce que ça a changé un peu la sémantique des choses, donc le monsieur là qui est linguiste, tout ça. Voilà, c'est extrêmement important, c'est les mots, d'accord ? Donc, formation par la recherche et deux, formation professionnelle. C'est-à-dire, on est en train de faire un métier en tant que doctorant. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec, je crois que c'était vous, madame, qui l'aviez dit, les premiers qu'il faut convaincre de ça, bien sûr, mes honorables collègues encadrants, bien sûr, les entreprises, mais il y a surtout les principaux concernés, c'est les doctorants eux-mêmes. D'accord ? Parce qu'à partir du moment où on est en train de bosser, vu qu'on a un contrat de travail, enfin, dans mes domaines, qui est la bio, dans d'autres, je sais que c'est plus dur, mais je veux dire, à partir de là, si eux, ils sont convaincus, ils pourront se vendre en conséquence.
Voilà. Sabine, une réponse.
Oui, je vais être très très bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, et notamment sur l'insertion professionnelle des docteurs, mais les études montrent que le principal frein à l'insertion professionnelle des docteurs, c'est une méconnaissance de part et d'autre. C'est vraiment le principal frein. Donc d'une part, les doctorants n'osent pas, pour une raison X ou Y, se projeter dans certains métiers de l'entreprise. Et puis par ailleurs, les entreprises ont du mal finalement à voir ce côté, je dirais, opérationnel. Ils ont l'impression que ces chercheurs sont trop dans leur bulle, entre guillemets, qu'ils ne sont pas suffisamment pragmatiques et donc sont un peu trop éloignés des besoins de l'entreprise, alors que lorsqu'on détaille l'ensemble des compétences, eh bien, il y a une véritable adéquation entre les deux, justement. Voilà, donc je ne vais pas détailler ça, mais on pourrait détailler justement le bon nombre, les compétences qui sont, je dirais, vraiment à l'adéquation et à l'interface des deux mondes. Et elles existent réellement.